Sacré, es-tu là ? Un podcast qui met de la lumière dans votre vie. Le sacré est présent sous mille formes dans la vie de beaucoup d'entre nous. Nous ne savons pas le définir, ni même le comprendre. Il désigne ce qui est inaccessible. Ce podcast explore tous les chemins qui y conduisent. Je vais à la rencontre de personnes qui ont eu une expérience du sacré, qui se manifeste sous une multitude de formes, rites, mythes, symboles, hommes, animaux, plantes. Je vais les interroger sur ce moment de bascule où tout a changé, intérieurement et extérieurement. Bonjour, je suis en présence de Suzanne Huski, que j'ai rencontrée aujourd'hui lors de la Biennale d'Istanbul, le 7e continent. Je la décris aujourd'hui comme une femme nature. Je pense qu'elle pourra nous expliquer tout son parcours, parce que c'est une femme qui a une double nationalité, française-américaine, qui est partie très tôt vivre en Californie, qui a appris ce qu'était la terre, l'écologie, à travers l'apprentissage de la permaculture, du paysage, des jardins qu'elle a façonnés. Aujourd'hui, elle revient en France, dans sa région natale, à côté de Bordeaux, et plus active que jamais, parce que c'est à la fois la politique, mais l'art, qui vont mener ses prochains combats. Bonjour Suzanne.
Bonjour.
Peux-tu me dire, Suzanne, quel a été ton premier rapport avec le sacré et quel rapport entretiens-tu avec lui ?
Je pense que le moment précis, ça a été la mise en mou de choses qui étaient là, qui étaient présentes depuis bien plus longtemps, mais qui n'étaient pas conscientisées d'une manière sacrée. Et ça s'est fait pendant un workshop avec Starhawk, justement, qui s'appelle Sacred Earth Workshop, Training, je ne sais plus comment elle appelait ça. Et en fait, chaque jour, on était avec un élément différent, sachant qu'il y a cinq éléments, il y a quatre éléments. Il y a la terre, l'air, le feu et l'eau, et après le spirit. Et dès le premier jour, on devait tous amener une eau qui avait un sens pour nous. Elle a pris un grand saladier, et le saladier, c'est ça s'appelle ça the waters of the world, les eaux du monde, puisqu'elles viennent... Les gens viennent de partout et puis on met nos os ensemble et on voilà et après à la fin on a plusieurs jours après on est chacun reparti avec ses os qui ont appartenu à tous les autres, voilà. Et après chaque jour on faisait des rituels autour de chaque élément, voilà, et ça a commencé comme ça. Et j'ai un rapport à la terre qui m'est tout... Enfin, depuis toujours, hein, j'ai fait du paysagisme, de l'horticulture, de la permaculture, de l'herboristerie. Donc les plantes et la terre sont vraiment quelque chose à laquelle je pense tout le temps. C'est en conscientisant un petit peu ces choses que je me suis rendu compte à quel point ce besoin d'aller travailler la terre, toucher la terre... C'était non seulement du soin personnel, mais c'était du soin de la terre et c'était complètement spirituel. Mais ce que j'avais négligé, parce que j'étais tellement concentrée sur la terre, c'est que j'avais négligé l'eau, j'avais négligé le feu, j'avais négligé l'air. Et l'air, c'est très simple de penser l'air comme cette chose qui est commune à tout ce qui vit, qui est commune à tout ce qui a vécu et tout ce qui va vivre. C'est juste complètement fou qu'à chaque respiration, on partage ça, mais avec tout ce qui vit. Et c'est... Et en fait, je ne réponds pas du tout à la question. Est-ce que c'est tous les jours ? Oui, c'est tous les jours, en fait. C'est tous les jours qu'on respire.
À la Biennale d'Istanbul, tu présentes un film où l'on voit Starhawk pendant une séance de chamanisme. Elle est une figure essentielle des luttes écoféministes américaines. La thèse fondamentale de l'écoféminisme, c'est de soutenir qu'il y a des liens indissociables entre domination des femmes et domination de la nature, ou entre capitalisme, écocide et patriarcat. Le mouvement est quasi inconnu en France. Souhaites-tu le développer et lui donner une plus grande audience à travers tes installations ?
Alors, je dirais que... Bon, il commence à être connu en France, Starhawk, pour commencer... en parlant de la vidéo, Parce que, bon, d'une part, elle enseigne dans le monde entier. Elle, maintenant, elle commence à être traduite en français. Enfin, non, elle est traduite en français. Pas tout, ces science-fiction ne sont pas traduites, alors que c'est des science-fiction agricoles, féministes, qui sont tellement géniales. Et ça, ce n'est pas encore traduit. Et je dirais peut-être qu'en France, ce qui peut-être va prendre plus de temps, parce qu'il y a cette laïcité qui supporte rien de spirituel. En fait, spirituel, c'est tellement associé à un patriarcat qui est toxique de l'Église, qui est réel. Sachant que Star Rock, justement, elle a travaillé sur ça. Elle est descendue dans l'histoire de la spiritualité pour regarder au moment où ça bascule, justement. À quel moment est-ce que l'égalité homme-femme bascule, et c'est lié à la spiritualité. Et justement, c'est pour ça que ces féministes ont recréé une éco-spiritualité féministe. Voilà, où bien sûr, il y a... c'est très inclusif, double cercle, qui est la forme du tapis. C'est un tapis, pas une tapisserie. Complètement basé sur le respect des autres, mais le respect des éléments qui ne peuvent pas être vendus ou achetés. J'ai voulu partager cette transe, parce que ça, c'est une transe que Star nous a faite pour un autre cours. J'ai étudié la permaculture avec elle aussi, permaculture et magie. Ah oui, pour revenir un peu en arrière, elle n'est pas seulement tout que chamane, elle est une auteure, elle est philosophe, elle est activiste, je dirais avant tout philosophe et activiste, et ensuite sorcière, et ensuite elle a commencé une religion. C'est un peu une personnage un peu fou comme ça, qui a fait tellement de choses, elle a écrit plein de chansons, qui sont, ben, voilà, elle a pensé beaucoup de choses. Et je me suis dit, parce que ces trans, elle ne les fait que dans des contextes de rituels ou des contextes où elle enseigne. Et donc, ce n'est pas des choses qui peuvent accéder que finalement des gens qui ont décidé de venir autour d'elle. Et j'ai voulu porter cette parole, cette trans qu'elle partage avec nous, et la partager avec une audience qui n'aurait pas accès justement à cette trans. Sachant que la trans... Il n'y a pas de drogue, hein, c'est dans Reclaiming, qui est le nom de cette éco-spiritualité, il n'y a pas du tout de drogue, au contraire, il faut de la clarté mentale pour être un activiste. Tous les gens qui font partie de cette éco-spiritualité sont des activistes, que ce soit des avocats ou des jardiniers, enfin, c'est vraiment très divers et très engagé. Et en fait, ce qui se passe dans cette transe, pour moi, c'est un outil. C'est un outil fondamental pour être un activiste. Parce qu'en fait, Starhawk, elle fait des workshops où les gens, ils rentrent... c'est des gens qui rentrent et ouais, des fois, ils vont faire une manif et ils ressortent des workshops et ils montent des associations et puis ils vont se battre. Et ça se fait, on ne sait même pas comment ça se fait, c'est juste en réactivant notre appartenance à ce monde. Je crois que ça commence toujours par on accueille la terre qui est son corps, l'air qui est son souffle, mais souffle, c'est le souffle de parler aussi, de dire, le feu qui est son notre énergie, notre feu interne, et l'eau qui sont tous les fluides qui sont à l'intérieur de nous. Donc il y a cette appartenance qui est rappelée. Et donc cette transe, elle est très belle, ça s'appelle une transe qui on voyage dans l'énergie d'un arbre. Donc on devient la sève. Enfin on prend sa respiration, on s'installe et on devient la sève. On devient le bouton d'une petite feuille. On devient une feuille. On se décompose, on tombe sur le sol, on se décompose, on redevient une molécule, on fait partie de tous les fluides de la Terre, on reste longtemps dans la Terre, et éventuellement, on remonte et on redevient sève, on redevient bourgeon, on redevient feuille, on redevient... C'est quelqu'un, et enfin, elle ne travaille jamais seule, hein, Star, elle travaille avec beaucoup d'autres femmes avec qui elles réfléchissent ensemble. Jamais ils vont pas critiquer les choses qui sont en place et créer des outils. C'est juste la création d'outils, des outils pour sortir du système dans lequel on est. Moi, je suis assez aussi convaincue que si on se souvient de notre appartenance à la Terre, bah forcément, on veut se battre pour elle.
Ton tapis, présenté à la Biennale d'Istanbul, représente un espace sacré. L'art permet-il d'inventer de nouvelles formes rituelles ? Est-il un espace privilégié et libre pour développer des prises de conscience, redevenir les gardiennes de la Terre ?
Ce tapis, qui s'appelle Régénération, il met en scène différents gestes de soins de la Terre. En fait, c'est vraiment très spécifique. Ce tapis, il est vraiment très spécifiquement sur ce thème-là. Et il y a beaucoup de végétaux et un peu des champignons. Il y a le serpent qui se mord la queue, qui est le symbole de la génération, de la régénération. Il y a, par exemple, quelqu'un qui demande la permission avant de ramasser une plante. Il y a des gens qui sont en train de nettoyer des sols, de rewild. En anglais, on dit rewild quand on replante des plantes sauvages qui ont été déplacées. Je crois qu'il y a des cabanes, il y a du rituel, il y a des gens qui sont ensemble, il y a un alambic, il y a quelqu'un en train de faire des plantes médicinales. Il y a différents gestes de soins qui impliquent un lien à la terre et au végétal, où le végétal est respecté. Alors en étudiant l'herboristerie aux États-Unis, sachant que j'ai étudié dans une école très spéciale où les plantes sont nos ancêtres, souvent des ancêtres qui sont bien plus brillants que nous, qui fonctionnent en collaboration, où il y a de l'entraide, où c'est des chimistes incroyables qui se mettent aux endroits où on a besoin d'elles. Etc. Donc il y a un très très grand respect du végétal. J'ai dessiné ce tapis au moment où je faisais ces études-là. Donc c'est un petit peu imprégné de ça. Après, ils sont faits... La politique des matériaux, bien sûr, en conséquence, elle est très importante. Donc, c'est des tapis qui sont faits en laine naturelle, avec des teintures naturelles. Ce n'est pas moi qui les fais, mais je les fais faire en commerce équitable avec une petite association avec qui je travaille depuis plusieurs années maintenant, peut-être 5 ans, et qui sont très contents de pouvoir avoir du travail, en fait. En ce moment, je suis en train de penser une pièce pour le Frac Aquitaine, ben, justement, avec cette question, à quoi ressemblerait ce lieu d'éco-spiritualité ? À quoi ça ressemblerait ? Sachant qu'il y a très longtemps, dans les Pyrénées, j'avais visité une église qui n'était jamais ouverte, mais on m'avait ouvert la porte. Et en fait, elle n'avait pas été repeinte en blanc, comme beaucoup d'églises à un moment dans les Pyrénées. Et elle était couverte de fleurs. Il y avait des fleurs au plafond, partout. Il y avait des fleurs sur les colonnes. Et à l'extérieur, il y avait l'ours, bien sûr, était sacré, des animaux comme ça. Donc, c'était totalement païen, quoi. Ça avait la forme d'une église vaguement. Et puis c'était juste la nature qui était célébrée là-dedans. Et du coup, voilà, je proposais au Frac de réfléchir à cette question. J'ai fait un entretien avec Starhawk sur à quoi ça ressemblerait s'ils avaient eu les moyens de faire ce lieu. Il y a un moment, ça sera dans le catalogue de l'expo. Et je pense que le tapis, cette forme circulaire, bien sûr, c'est une évidence, hein, parce qu'il y a c'est toujours inclusif. Il n'y a jamais de spectateur, il n'y a personne qui est laissé à l'extérieur. On est là ou on n'est pas là. Mais quand on a eu l'intention de venir, on est là. Et il n'y a pas d'hiérarchie. Il y a tout sauf de la hiérarchie. Tout le monde est écouté, tout le monde est respecté, tout le monde est au même niveau.
Que souhaiterais-tu rendre sacré ?
Je pense qu'avec les pièces que je suis en train de faire en ce moment, c'est la terre.
Merci et bonne continuation.
Merci. Merci.
Retrouvez-moi un jeudi sur deux pour entendre parler des gens de tout horizon. J'imaginais ces podcasts en réaction contre les préjugés véhiculés par les sectaires, les douaniers des spécialités, les fragmentateurs de multiples scènes en France et partout ailleurs. Après avoir commenté ce podcast et laissé une appréciation, je vous invite à éteindre votre smartphone pour aller à la rencontre du sacré.